Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Il y a de la tristesse, les amis, pour ce dernier paddock de la saison. En tout cas, ce dernier débrief de la saison, puisque c'était la dernière course de cette saison 2024 de Formule 1 à Abu Dhabi hier, 24e et dernière manche de cette saison avec une victoire de Lando Norris. Il s'est passé plein de choses. McLaren est champion du monde des constructeurs 26 ans après. Exit Mika Häkkinen et David Coulthard. C'est l'heure désormais de Lando Norris et d'Oscar Piastri. Charles Leclerc avec une course totalement folle. Ferrari qui est passé pas loin de l'espoir. Hein. Ils échouent à 14 petits points seulement de McLaren. Les adieux de Lewis Hamilton qui est sorti par la grande porte. On va en parler. Alpine qui arrive à faire le coup de l'année, le coup du siècle peut-être, quand on se rappelle des podcasts qu'on faisait sur Alpine en début de saison. Et puis on va une nouvelle fois se pencher sur le cas de Sergio Pérez, vous l'avez compris. On va débriefer toute cette course, tout ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Avant d'accueillir toute l'équipe du paddock, je voulais vous dire qu'il y aura des podcasts encore pendant la période creuse, pendant l'intersaison. Dès la semaine prochaine, on va faire des débriefs des grosses équipes de McLaren, de Ferrari, revenir dans le détail, se projeter sur les saisons d'après. Donc restez vraiment connectés avec nous. Hein, vous vous abonnez sur la chaîne podcast du paddock et vous checkez un petit peu vos notifications. Puis n'oubliez pas les petites notes, bien sûr, sur les plateformes de téléchargement. C'est super important pour nous. Ben lui, c'est sa dernière. Jean-Luc Roy, notre team principal, parce qu'il va prendre des vacances aussi, mon Jean-Luc. Hein. Comme tout le paddock, hein. Tu t'en vas après ce Grand Prix d'Abu Dhabi. T'as besoin de repos?
Oh non, j'en ai pas besoin, mais je vais reprendre un peu quand même. Écoute, bonjour mon Nico, et puis salut Paul, salut Louis, salut à tous. Bah écoute, non, on a beaucoup de choses à dire. Écoute, on sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Tu sais, c'est comme en F1, tout peut arriver.
C'est vrai. Tu m'as toujours dit que la vie, c'était comme la Formule 1, un contrat, des fois, c'était fait pour être cassé. Moi, ça, je sais que tu me dis tout le temps ça. Un contrat, bah oui, c'est fait pour être cassé. Les ingénieurs
dans le bon sens,
du paddock.
Dans le bon sens.
Oui, c'est vrai. Louis Gerbier et Paul Lafitte, salut les gars.
Salut Nico.
Salut Nico, salut Jean-Luc. Salut.
On s'est quand même régalé, les gars, pour cette dernière course de la saison. Enfin, il s'est passé des choses. Souvent, dernier Grand Prix, c'est pas dingue, surtout quand le titre est joué, mais franchement, c'était pas mal. Non?
Ouais. Très bon dernier Grand Prix.
Bah ouais. Ouais, c'était un bon dernier Grand Prix. Vous allez nous donner également vos moments forts de cette saison. Et puis on parlera de Formule 2, puisqu'Isaac Hadjar a manqué le titre de F2. Scénario assez dramatique pour le pilote français qui a quand même fait une magnifique course. On va vous raconter tout ça. Les gars, c'est parti pour ce débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. Je vais vous donner bien évidemment les résultats de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Lando Norris s'impose sur sa McLaren, quatrième victoire de la saison, quatrième victoire de sa carrière devant les deux Ferrari de Carlos Sainz, qui aura été très très bon jusqu'à la fin. Quelle sortie aussi de Carlos Sainz, on pourra revenir dessus. Charles Leclerc a fait une remontée formidable, il partait 19e, il termine sur le podium, course dingue de Charles Leclerc. Quatrième, Lewis Hamilton qui a réussi un dépassement d'anthologie sur George Russell dans le dernier virage. Bon, peut-être que Russell n'a pas trop fermé la porte aussi. En tout cas, il termine devant son coéquipier. Sixième, Max Verstappen. Septième, Pierre Gasly, qui est donc le premier pilote du reste du monde. J'ai envie de vous dire. Huitième, Nico Hülkenberg. Neuvième, Alonso. Dixième, Oscar Piastri. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, Jack Doohan, pour son début en Formule 1. Quinzième, pas la course de l'année. Sergio Pérez a abandonné. Franco Colapinto également, ainsi que Liam Lawson et Valtteri Bottas. Je te vois venir, toi. Je te vois venir.
Le petit Sénat.
Du coup, McLaren est champion constructeur. 14 points d'avance, je vous le disais, seulement sur Ferrari. Red Bull 3e, Mercedes 4e. Mais Red Bull, franchement, qui, depuis le Grand Prix de Miami, galère vraiment. C'était la 4e équipe hein, de ce plateau. Et au classement des pilotes, Lando Norris sécurise son titre de vice-champion du monde devant Charles Leclerc. Il va terminer cette saison à 64 points de Verstappen, Lando Norris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pierre Gasly, mine de rien, termine 10e au classement des pilotes, les gars, avec 42 points devant notamment Hülkenberg et sa Haas. Voilà pour toutes les infos. Résultats suite à ce Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est la dernière de la saison. Jean-Luc, on va revenir quand même sur ce qui a fait le sel de ce week-end, c'est cette lutte entre McLaren et Ferrari avec un Lando Norris. Pour le coup,
que nous on annonce fragile dans plein de podcasts, et c'est vrai qu'il a un peu manqué d'épaisseur pour aller chercher le titre pilote face à un monstre comme Verstappen, mais là par contre ça a été le taulier de ce week-end, parce qu'il a fait un week-end sans faute, aucune erreur, il a permis à McLaren d'aller chercher le titre, surtout qu'avec ce qui s'est passé avec Oscar Piastri en début de course, c'était loin d'être gagné, Jean-Luc.
Absolument, oui, non, ben là il a fait le boulot, mais tu sais, encore une fois, hein, je vais ressortir la formule, si on ne peut pas blâmer, on ne peut pas louer librement, et quand il est moins bon, ben on le dit, et c'est pas un outrage. Je sais qu'il y a des fans qui ne supportent pas qu'on critique tel ou tel, on est là pour ça, on essaie d'être objectif, même si on a nos têtes et nos sentiments, mais en l'occurrence, Norris a fait un week-end parfait, ben il fait la pole, hein, déjà c'est clair, et de manière impressionnante, et puis ensuite, il mène un grand prix. Alors c'est toujours dans ces cas-là, c'est toujours évidemment un peu frustrant parce que c'est calme et on le voit pas beaucoup, mais il s'arrête, il a ses médiums, il les emmène quand même au 27e tour, ce qui est un peu plus que la limite de ce que Pirelli avait prévu. Il a un arrêt formidable, hein. Il passe 2 secondes au stand, c'est vraiment grandiose. Il ressort, il perd moins de 21 secondes et puis ensuite il mène sa course. Écoute, c'est remarquable parce que à un moment, Sainz n'était pas très loin quand même. Il était à 2-3 secondes. Après, on a vu que l'écart se creusait un petit peu. Il finit à un peu plus de 5 secondes. Écoute, c'est du boulot parfait. Et c'est vrai que les gens heureux n'ont pas beaucoup d'histoire. Donc, du coup, Lando n'en a pas beaucoup eu. Mais on peut dire que son équipier Oscar, lui, en a eu. Et je pense qu'on va y revenir.
C'est clair. On va l'écouter, tiens, Lando Norris, après cette course qui permet à McLaren d'être sacré. 26 ans après, 1998, le dernier titre. J'avais 8 ans, quoi. Je crois que franchement, en plus, 98, c'est une des premières saisons où moi, je me mets à regarder la F1 vraiment, là. Hakkinen, Coulthard, Michael Schumacher.
Schumacher, ouais, c'était chaud.
Ah ouais, franchement, c'était... Bon, on va écouter Lando Norris.
You know, I saw in my mirrors Oscar get taken out.
J'ai vu Oscar sortir dans mes rétros.
I saw after lap one, Charles was up to P8.
Et j'ai vu qu'après un tour, Charles Leclerc a été P8. Et je me suis dit, ouais, ça se passe pas super bien pour nous. Mon job a été de ne pas faire d'erreurs, de ne pas faire le héros. J'ai essayé de pousser davantage quand je pouvais le faire, mais j'en avais pas trop besoin. J'ai gardé le contrôle, j'ai gardé mon calme. Sainz était à 3-4 secondes sur le premier relais. Ça n'a jamais été une course tranquille.
The pressure was always on a day like today.
La pression était toujours là pour toute l'équipe, les mécaniciens, les ingénieurs, mais notre arrêt au stand a été parfait. Et c'était un moment important pour toute l'équipe, pour les mécanos. La fiabilité, toutes ces choses, tout ça, c'est très important. Et aujourd'hui, tout était parfait.
A big thanks to the team.
Voilà, grand merci à l'équipe Lando Norris au micro de Canal, de nos confrères de Canal. Qu'on sent soulagé, les gars, hein, Louis. On le sent plus bavard que ces dernières semaines, le
ouais,
Lando.
Ouais, clairement, là, dis donc, c'était long comme interview. je pense qu'il a fait, le taf pour une fin de saison, pour le coup. Lui, qu'on a un peu, comme tu le disais, un peu, pas dénigré, mais un peu critiqué, pareil, souvent à raison. Là, clairement, sa fin de saison, elle est assez solide. Ils ont su mettre les points. À la banque et être champion constructeur comme prévu. Et du coup, quand le champion constructeur n'est pas le champion pilote, ça crée une émotion particulière, je trouve, dans l'écurie. Puisque sinon, finalement, c'est le pilote qui englobe tout, quoi. C'est quand même celui que tu vas chercher. Et puis là, 98-2024, quand tu te rappelles du GP2 Engine et tout, c'est quand même une super histoire qui en plus va continuer l'année prochaine, parce que maintenant, du coup, ils vont vouloir l'autre et ils sont bien placés pour le faire. Et Lando Piastri, c'est quand même Lando Piastri, la McLaren, c'est une des attentes les plus grandes de la saison prochaine, parce que tu peux voir éclore Piastri, tu peux voir confirmer Lando, normalement la voiture sera là. C'est vraiment une partie de la F1 que j'ai hâte de voir en mars. C'est les McLaren, qu'est-ce qu'ils vont faire, parce que normalement à date, comme on dit dans les entreprises, c'est pour eux l'année prochaine.
Ouais. Et on se fera un gros bilan sur la saison de McLaren en rentrant vraiment dans le détail la semaine prochaine et en se projetant fort sur l'année 2025. Mais Paul, je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que cette course-là, à Abu Dhabi, c'est assez significatif, parce qu'on a pointé tout au long de la saison ça paraît fou de dire ça de McLaren, mais le manque d'expérience dans la gagne, dans la culture de la victoire, que ce soit pour Norris, que ce soit dans la gestion des pilotes, que ce soit aussi dans l'approche stratégique de certaines courses. Et là, tu as la sensation que pour aller chercher ce titre, malgré ce qui s'est passé avec Piastri, ils ont réussi à tout mettre bout à bout pour aller chercher ce titre-là. Ça prouve aussi les progrès de McLaren sur cette saison.
Ouais, c'est sûr, Nico, mais il faut quand même rappeler qu'avant ce dernier Grand Prix, quand même, McLaren avait les faveurs des pronostics. Hein, Ferrari était quand même loin. Il aurait fallu vraiment un gros, gros concours de circonstances pour voir la Scuderia titrée. Mais c'est vrai que McLaren a joué le jeu, a été bon. Mais moi, je suis un petit peu déçu parce que lorsque l'on voit la performance qu'est capable de faire, encore une fois, Lando Norris, ben on peut se dire qu'il aurait pu aller titiller encore un petit peu plus Verstappen pour le titre pilote. Alors c'est vrai que le Néerlandais avait fait un début de saison canonissime avec plusieurs victoires enchaînées, mais c'est vrai qu'on peut tirer un coup de chapeau à cette formation, hein, qui était nulle part quand même, hein, il y a un petit peu plus de deux ans, et qui se retrouve aujourd'hui titré. Donc chapeau bas à l'écurie, chapeau bas à Lando Norris, hein, qui sera un prétendant au titre, Louis le disait il y a quelques instants, tout comme Oscar Piastri, hein, qui est en train lui aussi de se révéler. Donc c'est vrai que le trio Piastri, Lando Norris et McLaren visera beaucoup de succès en 2025, et moi aussi j'ai hâte de voir cette saison démarrer en mars prochain.
Non mais ça c'est vrai, Jean-Luc, que c'est quelque chose d'important aussi. On sait qu'en Formule 1 on met des fois des choses en place à moyen terme, et tous les progrès qu'a accumulé McLaren cette saison, toutes les erreurs aussi qui ont été accumulées, parce qu'il y en a eu beaucoup, on les a pointées dans le podcast depuis maintenant, depuis peut-être allez, le Grand Prix de Miami, où on voit que McLaren a vraiment la meilleure voiture et domine depuis la trêve estivale, on va dire ça. On pointe leurs erreurs à chaque fois, mais ça fait aussi partie du bagage pour gagner un jour, Jean-Luc. Ça fait partie de l'axe de progression vers la victoire.
Ben naturellement. Alors il y a deux éléments qu'il faut prendre en considération, et j'ai lu à peu près tout ce qu'ont dit les team managers, et ça c'est important. Tu sais, ça m'arrive pas souvent, mais là aussi, quand c'est bien fait, il faut le dire, la réglementation qui limite les développements, notamment aéro, dans les écuries de pointe. Évidemment, c'est Red Bull qui en a souffert, puisque Red Bull avait tellement dominé, avec tellement de points, donc Red Bull avait en gros 70% de temps de soufflerie de moins que McLaren, par exemple. Donc, oui. C'est énorme, hein. Donc, en cours de saison, c'est ce qui te permet d'apporter de nouvelles pièces, au-delà évidemment de l'aspect financier, mais bon, on sait qu'ils sont tous à peu près, à très peu de choses près au budget, hein, c'est-à-dire autour de 140 millions de dollars, pour officiellement, là aussi, bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais ce qui est important, c'est la capacité de développement et de travail en cours de saison. Or là, eh bien, Red Bull va en bénéficier, puisque Red Bull va récupérer à peu près, selon les calculs, 14% de soufflerie en plus par rapport à cette année. C'est énorme. Et à l'inverse, McLaren va en perdre énormément. Donc, il va y avoir une régulation due au règlement, et que je trouve vraiment bienvenue. Et pour le coup, bah, Ferrari va pouvoir travailler un peu mieux que McLaren. Alors, vous allez me dire, bien sûr, et je ne vais pas être trop long, mais vous allez me dire que l'évolution du règlement pour 2025 est assez limitée. Il y en a un petit peu, mais bah, si, ça veut dire justement qu'on va jouer sur des détails, et qu'avant le grand bouleversement annoncé pour 2026, eh ben, on va peut-être pouvoir revenir dans le coup, notamment pour Red Bull et notamment pour Mercedes, puisque Mercedes étant encore moins bien placé, étant quatrième, eh ben, on va pouvoir mieux travailler. Donc ça, cette partie du règlement, elle est intelligente et elle est très bien faite.
C'est vrai que c'est intelligent. C'est peut-être parfois injuste quand tu gagnes, parce que bon, quand tu gagnes, c'est que tu as été bon, bah et oui. Du coup, tu te retrouves pénalisé. Donc, je comprends que les mecs qui gagnent soient pas forcément ravis de cette évolution, mais pour nous, les spectateurs, et ça permet d'avoir des saisons très intéressantes, parce qu'on va se refaire un bilan, hein, en fin de podcast sur les moments forts de la saison. Mais je pense qu'on a tous apprécié cette saison de Formule 1 avec ces week-ends où on ne savait absolument pas ce qui allait se passer, Jean-Luc. Hein.
Et puis, pardonne-moi, Nico, juste en un mot, c'est beaucoup plus intelligent que le poids, par exemple, qui est pour moi le summum de la connerie. C'est-à-dire, tu as des disciplines en sport mécanique où tu gagnes, on te met 20 kilos, 30 kilos, 50 kilos, c'est absolument n'importe quoi. Là, c'est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus subtil.
Ouais. En tout cas, c'est vrai que bah, Lando Norris a assuré, parce que ça a été très chaud, Louis, pour Oscar Piastri, en début de course, qui a été victime d'un accrochage. Et franchement, à ce moment-là, Moi, je me dis tout de suite, je me dis, ah, ça y est, la peur de gagner, McLaren, attention, ils vont passer à côté. Alors, Leclerc était très loin sur la grille, mais malgré tout, il fait un premier tour de folie. Il fait un tour de zinzin, Charles Leclerc. Il passe de P19 à P8. Là, franchement, à ce moment-là, je me dis, Ferrari va réussir à le faire.
Ouais, alors moi, tu sais combien j'aurais aimé, hein. Et ben, j'étais pas trop, même là.
T'as pas cru du tout?
Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, Lando, ça va pas le faire. En fait, il fallait que les deux flanchent tant que l'autre était premier. Et donc, je le sentais vraiment pour le coup. Piastri, je suis d'accord avec toi, peut-être un peu, s'il y avait eu deux Piastri hier, peut-être que ça aurait un peu claqué des fesses. Mais Lando, justement, peut-être qu'il commence un peu à apprendre, peut-être que ce fameux bagage, tu vois, il commence à l'assimiler. Hier, il a été solide. Donc, j'y ai pas cru, j'ai plus juste apprécié, comme tu dis, ce tour de zinzin de Charles. Il nous fait un truc, j'ai vu sur les réseaux, là, quelqu'un reprenait le truc de Cars.
La caméra embarquée.
Non, le, tu sais, le truc de Cars dans le début d'un truc en NASCAR, là, le dessin animé où tout, il y a des accidents de partout, il se faufile. C'était un peu ça et franchement, il a dû vraiment kiffer, se faire plaisir. Mais c'est vrai que lui, j'ai vraiment trouvé étonnant on voit un plan à la fin où il est adossé à un mur, bouteille d'eau à la main, et regarde, il est dégoûté, quoi. Il y croyait encore et bah, je trouve ça beau et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais t'avais quand même. C'était mince quand même, mais bon, il a joué la carte à fond jusqu'au dernier tour et ça ne nous étonne pas de lui. C'est ce qui fait que l'année prochaine, il s'en sortira face à Hamilton. C'est que, enfin, tu vois, c'est quand même un battant, quoi.
Eh ouais, mais Charles Leclerc, il a Ferrari dans le sang. Voilà, c'est ça, la Scuderia. Il l'a dans le sang et ça se ressentait vraiment. Bah tiens, juste avant de l'écouter, j'avais quand même une petite stat aussi sur Oscar Piastri, les gars. Quatrième pilote de l'histoire seulement à avoir bouclé tous les tours de la saison 2024. Ça a été fait que trois fois avant lui. Je crois qu'il y a eu Lewis Hamilton, il y a eu Max Verstappen et le troisième, je m'étais noté, je me demande si c'est pas Schumacher.
Schumacher.
Ouais, donc il est en bonne compagnie. Très bonne compagnie.
C'est anecdotique, mais voilà, Oscar Piastri qui a réussi à aller au bout de cette saison sans sortir une seule fois. Tiens, on écoute Charles Leclerc. Tu le disais, Louis, ultra déçu. Après cet échec, Ferrari qui échoue à 14 points de McLaren.
Bon, à la fin, la déception est là parce que bien que la course ait été exceptionnelle, le premier tour a été super, tous les risques qu'on a pris ont payé et c'est ce qui comptait. Il fallait faire un mini miracle aujourd'hui. Je pense qu'honnêtement, on l'a fait, mais malheureusement, c'était pas assez. Donc ça fait mal parce qu'on perd le constructeur. À la dernière course, bien que bon voilà, ça se joue toujours à la dernière course dans ces cas-là, mais c'est le résultat des 24 courses mises ensemble et on n'a pas été meilleur que McLaren sur l'ensemble des 24 courses, donc ça fait mal, surtout quand ça se joue à la dernière course.
Il est dégoûté Charles Leclerc, mais c'est déjà, moi Jean-Luc, je trouve que ça veut dire que le gars, il a quand même cette volonté, cette hargne de compétition, cette soif de gagner. Et puis aussi, Charles Leclerc, bon alors, il n'est pas vieux, hein, il a 27 ans, mais ça fait quelques temps qu'il est en Formule 1. Il a gagné sa première course en 2019. Voilà, tu sens que là, il faut gagner un truc. Même lui, on ressent ça chez lui, quoi. Il faut qu'il gagne, il faut qu'il y ait ce déclic.
Bah, écoute, c'est une réaction de champion, hein, qu'il n'est pas encore, mais qu'il sera, j'espère, très vite, et pourquoi pas l'an prochain. En tout cas, il a le talent, on le sait depuis longtemps, mais il a la détermination. C'est bien, cette réaction, moi, j'ai trouvé ça, mais excellent, par rapport à d'autres qui se contentent en disant « Ah bah oui, mais j'ai été pas mal là, j'ai été pas mal ici ». Bah oui, mais lui, quand il s'est vu comme ça, repoussé aussi loin, parce que là aussi, bah, il espérait bien quand même, pourquoi pas faire la pole, se retrouver 11e sur la grille, et la montagne était moins haute à escalader. Bon, là, effectivement, il fait un premier tour absolument de folie, quoi, avec un talent extraordinaire et un peu de chance. Il le dit lui-même, d'ailleurs. Il l'a dit dans la salle de débrief quand je sais plus qui lui disait, bah, je crois que c'est Lando, lui disait, putain, t'as fait un premier tour incroyable. Il dit, ouais, j'ai eu du bol. Bon, bah, il en faut un peu, mais ça se provoque. Non, mais ça veut dire qu'il a une mentalité de champion. Effectivement, ça veut dire, comme le soulignait Louis, que bah, l'an prochain, il aura affaire au monstre, hein, au monstre absolu. Lewis Hamilton, qui entre dans sa bergerie avec l'idée évidemment de tout bouffer et de décrocher son 8e titre de champion du monde. Donc bah, c'est génial. génial, c'est une réaction de champion. En plus, il était vidé quand même, je pense qu'il a absolument tout donné. Bon, ben, ils ont fait le boulot chez Ferrari, ils ont fait 2 et 3. Norris était intouchable, et je pense que Piastri aurait été là. Ben, Piastri, il faisait 2, hein, pour être clair, parce qu'il n'y a pas de raison. Lui aussi, il a le talent, il a le métier, il avait la voiture. Donc, ils ont fait le boulot. Là où ils ont perdu, on peut-être y revenir plus tard, mais c'est évidemment au Canada, hein, Ferrari.
Ouais,
là,
voilà.
Ils ont tout perdu.
Ben, on peut en parler, ouais. Jean-Luc, parce qu'il y a une déclat de Fred Vasseur hier qui dit bon, les 14 points, il laisse des regrets, mais c'est pas à Abu Dhabi que la saison joue. Et Vasseur, il dit je pense que nos axes de progression, c'est pas forcément dans la performance pure. Par contre, c'est regarder où est-ce qu'on a eu des trous cette saison. Et voilà, il dit qu'au niveau du Canada, sur les 2-3 courses, là, ils perdent 80 points sur McLaren. Ouais. C'est énorme. Et la saison se joue là. Hein.
Même parler, Nico, pardon, Jean-Luc, on peut parler quand même de 4 grands prix, quand même, parce que le Canada, un 0 pointé, l'Espagne, passe à côté. En Autriche, c'est la Bérésina. Et en Angleterre, donc ces 80 points-là manquent au final à Ferrari pour être titré. Lorsqu'on voit qu'il n'y en a que 14 à l'arrivée, on peut comprendre la déception et de Charles Leclerc et de Fred Vasseur, le team manager.
Ils ont super mal géré l'été, Jean-Luc. D'ailleurs, c'est surprenant, hein, de voir.
Ouais. Ben, c'est étonnant, c'est un vrai trou d'air, hein, parce que après Monaco, justement, où bon, là aussi, et on le sait à chaque fois, le talent du pilote, évidemment, étincelant de Charles chez lui et tout, bon, c'est la victoire si on devait en sortir une avec celle de Monza, évidemment, mais bon, et puis après, il y a le trou d'air, alors effectivement, ça marche pas, il y a un mauvais fond plat, je sais pas ce qu'ils ont, est-ce qu'il y a une petite chute de motivation, on peut vraiment pas dire ça, mais ça fonctionne pas, il y a rien qui va, ils sont accablés en plus par les événements en course, parce que bon, Sainz, de mémoire part en tête à queue sur le mouillé, mais Charles, c'est un problème technique, hein, qui l'élimine. Ouais. Donc bon, bah, ça marche pas. En tout cas, il marque 0. Et ça, quand on regarde justement les résultats en fin de saison, bah, ça, si on veut le titre constructeur, bah, ça passe pas. Là où évidemment, à ce moment-là, McLaren en a pris 28, hein, des points. Tu te rends compte, le gap d'un coup. Alors l'Espagne, si on regarde là aussi les points, juste après, bah, 25 pour McLaren, 18 pour Ferrari, c'est pas si mal. Ils en prennent moins, mais bon. Encore 31-21 après. Alors encore la Grande-Bretagne, très mauvais. La Scuderia ne prend que 11 points et McLaren en prend 27. Tu vois, donc il y a eu un trou d'air l'été. Alors est-ce que c'est là aussi le développement, encore une fois, McLaren qui a mieux travaillé, parce que là aussi, c'est une phrase qui est répétée sans arrêt, mais c'est le cas. En Formule 1, on ne régresse pas forcément, sauf quand on fait une grosse erreur d'aileron, de fond plat ou de ce qu'on veut, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est surtout les autres qui progressent plus vite. Et le problème, il est là.
Ouais, et c'est sûr que ça va être un des axes de progression de la saison prochaine, ça, cette constance pour aller chercher un titre pilote ou constructeur. Paul, moi je voulais aussi qu'on parle de Carlos Sainz, qui est peut-être, les gars, le plus sous-coté du plateau cette saison, depuis quelques années, parce qu'il fait encore une super course, ça a été encore un coéquipier remarquable. Il sort avec une dignité, dignité d'un champion. Charles Leclerc, et là c'est là que tu vois quand même que cet attelage, cette line-up de pilotes, elle va nous manquer, parce que ils ont eu que des mots gentils tout au long du week-end. Et Charles avait fait un petit casque spécial en hommage à Carlos Sainz. Et,
c'est mignon.
Ouais, c'est mignon. Non mais franchement, en plus, ça fait du bien de voir ça. On n'arrête pas de dire que la F1 c'est un monde de requins, que les mecs sont des tueurs, que tu dois faire mal à ton coéquipier. Bah là, c'est un peu le contre-exemple. Alors oui, il y a eu des tensions, mais ça a toujours été aplani, et ça prouve que ces gars-là, ils sont capables de bien travailler ensemble, de gagner des courses ensemble, d'aller chercher des résultats et de rater un titre constructeur pour rien du tout. Donc du coup, pour moi, c'est une vraie belle saison de Carlos Sainz, c'est une vraie belle sortie.
Ouais, mais je valide à 100% tes propos, Nico. C'est le pilote, enfin à mes yeux, le plus sous-coté du plateau, et pas seulement cette saison, car c'est vrai qu'il a encore gagné 2 fois cette saison, toujours impeccable. Alors certes, aussi capable de sortie de piste, notamment en qualification, mais aujourd'hui, Sainz fait partie du haut du panier, mais il ne pouvait pas lutter avec Lewis Hamilton. Personne d'ailleurs ne pouvait lutter avec Lewis Hamilton, et on s'attendait tous à ce que le roi Lewis arrive chez Ferrari pour terminer sa carrière, mais c'est vrai qu'on peut lui tirer un coup de chapeau, constant, présent. Il n'a jamais rien lâché, à l'image de cette dernière course, hein, Jean-Luc le rappelait, hein, il est quand même revenu sur les talons un petit peu de Lando Norris, hein, à moins de 3 secondes, et on pouvait pourquoi pas se dire, allez, avec la performance et la vitesse de la Ferrari, pourquoi pas aller titiller Norris pour la victoire. Au final, c'est une deuxième, dernière place de Carlos Sainz, qui sera évidemment en Formule 1 la saison prochaine. Alors, on ne sait pas encore dans quel baquet, même s'il testera la Williams à partir de demain sur ce même circuit d'Abu Dhabi. Mais on peut lui tirer quand même, je pense, un vrai coup de chapeau. Et c'est un pilote qui va manquer, je pense, à la Scuderia Ferrari dans les prochains mois, les prochaines années.
4 victoires, hein. 4 victoires avec Ferrari, la première à Silverstone en 2022 et la dernière au Mexique cette année. Il en a gagné deux cette saison. On le dit, hein, Louis, depuis longtemps, mais c'est vrai que cette équipe-là, cette line-up-là, toi qui aimes bien Charles Leclerc, qui aimes bien Ferrari, qui adore la Scuderia, elle va manquer. On est très excités, franchement, de voir Hamilton.
C'est ce que j'allais dire. Elle va manquer. Tu vas voir qu'au mois de mars,
en fait, elle va manquer dans la sympathique dégagée, cette équipe.
Ouais, ouais.
Tu vois, et ce duo de pilotes. Je trouve qu'il y avait un côté bonheur, bon enfant, pote, que tu retrouveras certainement pas la saison prochaine entre Hamilton et Leclerc.
Ouais, c'est clair. Après, Carlos Sainz, je suis complètement d'accord. Avec vous sur les performances et tout. Après, moi, je suis un peu moins fan du pilote ou de l'homme en soi. Parfois, il m'agace un peu, mais enfin, tu vois, je le déteste pas du tout. Hein. C'est juste parfois.
On a compris,
c'est,
Louis.
C'est pas mon favori.
Garçon discret.
Ouais, voilà. Il est discret, mais ça, enfin, c'est bien de gagner des courses, mais c'est bien aussi de savoir se mettre hors trash pendant les essais, quoi. Enfin, genre, parfois il fait des choses, t'as envie de lui dire, Carlos, c'est pas utile, quoi. Tu vaux mieux que ça. Enfin, bref. Mais c'est vrai que je pense qu'il est sous-coté, clairement, Carlos. Après, juste sur est-ce que c'est le plus sous-coté, non, c'est Pierre Gasly, évidemment.
Ah, bon débat! Bon débat à faire dans un prochain podcast.
Il y a pas de débat. C'est ça le truc.
Je voulais juste vous dire pour compléter sur Sainz, il y a quand même 3 grands prix où il ne marque pas. Malheureusement, et ça vous savez bien que pour le résultat final, c'est rédhibitoire. Hein. C'est l'Arabie Saoudite, c'est le Canada, on en a parlé, et c'est Azerbaïdjan. Et quand tu ne marques pas 3 fois, surtout que Nico, tu nous as rappelé tout à l'heure que Piastri marquait toujours, il n'y a que 2 points d'écart entre les deux hommes. Hein. Alors que Sainz ne marque pas à 3 reprises, c'est énorme, hein, franchement. Et que Charles ne marque pas à 2 reprises. C'est pareil, tu vois, c'est quand au championnat, quand on tire le bilan, ces gars-là, quand ils marquent, c'est au minimum 10, 12, 15 points, hein, forcément. Donc tu vois un peu le manque à gagner, entre guillemets.
Ah, c'est clair. Carlos Sainz qui était tient d'ailleurs déjà dès aujourd'hui au volant d'une Williams. Hein. À Abu Dhabi, vous savez qu'il y a les essais de la saison.
Et du coup, Santander qui arrive comme partenaire de Williams. Ouais. Qui fait partie des sponsors qui suit Carlos, comme Telcel était arrivé miraculeusement sur le halo de Red Bull quand Perez est arrivé, quoi.
Ouais. Donc voilà, premier tour de piste pour Sainz avec une Williams. On a vu aussi le nouveau box d'Esteban Ocon là chez Haas avec son numéro 31. Donc voilà, on a déjà basculé dans la saison 2025.
Complètement hors contexte, mais vous savez pourquoi 31 ou pas?
Je me suis posé la question tout à l'heure.
Parce qu'il est normand, il n'est pas du tout, il est pas du tout du 31, non, du coup, pourquoi ?
Il n'est pas de Toulouse. J'avoue que je ne m'en rappelle plus. Faudra chercher.
Est-ce que c'est pas
un numéro qu'il avait en karting souvent?
C'est
de garder leur
Hamilton.
Première victoire en kart ou leur premier titre ou un truc comme ça. Ouais.
On va regarder ça. Je vais regarder ça pendant qu'on parle de Lewis Hamilton, les gars. Jean-Luc, Lewis Hamilton qui sort par la grande porte, qui fait un beau Grand Prix, qui termine quatrième après une jolie remontée, qui fait ce dépassement sur George Russell. On n'avait pas un peu peur des adieux d'Hamilton, mais on se disait que voilà, il se passait plus grand chose ces dernières semaines, qu'il avait déjà la tête chez Ferrari. C'est quand même, ça fait quand même plaisir de le voir sortir de la sorte. Après ce qu'il a fait avec Mercedes.
Écoute, c'est clair, oui, c'est un champion hors norme. Encore une fois, les chiffres, on va pas à nouveau les asséner, mais sont énormes. C'est le pilote tout simplement le plus titré, hein, avec ses 104, 105 et 7, il n'y a pas mieux. Alors effectivement, on était un peu déçus après la victoire qu'il avait récupérée en l'occurrence sur tapis vert en Belgique. C'est vrai que lui aussi il y a eu un sacré trou d'air, hein. La Hollande moyen, l'Italie pas terrible, l'Azerbaïdjan moyennasse, enfin bref, les États-Unis, bref, on se disait ça y est, c'est le frère de Gonzalo Pérez, c'est Gonzalo Hamilton qui était au volant là dans les, et puis non, là il s'est retrouvé. Alors lui-même dit, alors on sait pas si c'est de l'humour du 12e degré ou pas, après les qualifs, en disant bah j'y suis plus, je suis moins rapide qu'avant, il va avoir 40 ans là dans quelques jours, hein, début janvier, et puis il nous sort un Grand Prix formidable, donc tant mieux, on le retrouve comme on l'aime, hein, comme on l'a aimé. Alors c'est une sortie par le haut, même s'il n'est pas sur le podium, mais bon, effectivement, allez, moi je pense aussi que Russell a été sympa avec lui, et d'ailleurs il l'a dit, hein, il a pas clairement dit, bon j'ai laissé passer, mais ça ressemblait un peu à ça quand même, parce que même si à un moment Bono, là, son ingénieur Peter Buddington, lui dit je suis à combien de devant, il lui dit 14 secondes, tu peux le faire. Bon, il reprend une seconde par tour à la même voiture, au même pilote. Les temps autour, hein, je les ai là, vous savez que j'aime bien ça. C'est une 28-195 pour Russell au 56e tour, une 27-278 pour Hamilton au 44e. Bon, bah c'est très bien, c'est une belle sortie, c'est génial. Il reste quand même derrière au championnat, hein, faut le rappeler aussi. 223 points pour Hamilton, 245 pour Russell. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas arrivé souvent qu'Hamilton soit devancé au championnat par son équipier. Donc effectivement, est-ce qu'il y a eu une petite perte de motivation à un moment ? Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. Disons qu'il était moins teigneux, moins agressif. Et ouais. Je pense que là, on va le retrouver comme on l'aime en début de saison, tout en rouge.
Ça va être bon quand même. Lewis Hamilton avec la première sortie en combinaison rouge, ça va être exceptionnel. J'ai l'info pour Esteban Ocon.
Ouais.
On l'a tous. On a tous dégainé.
C'est en effet. Oui, mais c'est moi l'encorman, donc c'est moi qui
l'ai oui, dit. Et bien sûr.
une histoire de karting. Ouais, Jean-Luc, il sait.
Et voilà. Il faut m'écouter.
Il portait le numéro 31 lorsqu'il a été titré en championnat de France de karting dans la catégorie minime en 2007.
Non. C'est tout.
Son année la plus réussie à ce jour, et je cite Esteban Ocon, c'est la raison pour laquelle j'utiliserai le 31 pour le reste de ma carrière.
Voilà. Voilà.
Je pense, ça c'est la. C'est peut-être la plus belle.
Vous n'êtes jamais demandé quel numéro vous mettriez si vous étiez en F1? Moi je me suis déjà demandé. Moi je mettrais le 36 Châteauroux, mon pote.
Paf. Ah ouais. Alors si Châteauroux débarque en Formule 1,
enthousiaste. Ouais. Super.
Tu passes de Las Vegas à Abu Dhabi,
Châteauroux, bam.
Ok, excellent. Tiens, bon, on va écouter Lewis Hamilton quand même après sa dernière course.
We've been on such a dry, an incredible journey together for such a long
Nous
time.
Nous avons une si belle aventure ensemble depuis si longtemps.
Just embracing each other, just cherishing the moment.
Se rappeler, se rappeler de tous ces bons moments, c'est triste pour tout le monde. C'est difficile de passer à autre chose aujourd'hui.
Je suis fier
de mon pilotage. Aujourd'hui, nous sommes relevés à chaque moment difficile.
It's been great fight in everybody.
Ça a été une belle bataille.
Mercedes a powered all my success since I was 13.
Mercedes a toujours fait partie de mes réussites depuis que j'ai 13 ans. Je serai toujours reconnaissant vers Mercedes de m'avoir soutenu toutes ces années. Voilà, Lewis Hamilton avec les collègues de Canal.
Allez, Bing, Nico, Paul, tu me laisses 30 secondes, même pas, je te donne des chiffres. 12 saisons, on est bien d'accord. 6 titres, 153 podiums sur 246 Grands Prix chez Mercedes. Il faut savoir que les 105 victoires, les 104 pôles, c'est avec un moteur Mercedes, puisqu'il avait ça chez McLaren avant. Et donc, il a décroché sur ses 105 victoires, 84 victoires avec Mercedes. Donc, 78 pôles, on l'a dit, sur les 104. Et 55 meilleurs tours. Voilà, j'ai fini.
C'est vrai que c'est pas trop mal. Et c'est vrai que c'est pas trop mal. Et tu dis qu'en 2024, il en gagne deux, que c'est la pire saison de sa carrière avec Mercedes. Je crois que même de sa carrière tout court, il me semble, mais ou en tout cas avec Mercedes, ça c'est sûr.
Oh oui.
On en avait parlé lors du dernier podcast. Paul, l'image elle est belle quand même de Lewis là. Tu vois qu'il y avait de l'émotion. C'est ce qu'on voulait quand même pour la sortie d'un champion de cette trempe-là. Ça aurait fait désordre quand même qu'il nous fasse une botasse à pas terminer la course ou voilà une course fadasse dans le milieu du peloton. Il fallait qu'il se passe quelque chose quand même pour sa dernière.
Ouais, la race des champions, mais on l'a tous dit, on aime tous Lewis Hamilton. Lorsqu'on aime le sport automobile, on vénérait Ayrton Senna. Je pense qu'on peut dire la même chose aujourd'hui du Britannique qui s'est battu comme un beau diable, qui termine quand même quatrième au pied du podium. Et Jean-Luc rappelait ces chiffres qui sont complètement dingos. Hein. On parlait du premier tour de Charles Leclerc qui était complètement zinzin. On peut parler de cette carrière de Lewis Hamilton qui, j'espère, n'en a pas encore terminé, même s'il aura 40 ans dans quelques semaines. Mais c'est vrai que c'était une belle fin. Lui qui a tellement souffert sur ce même circuit, hein, lorsque Max Verstappen a décroché son premier titre de champion du monde. Hein. On se rappelle tous évidemment de ce dernier tour, qui sera peut-être le tour le plus dingue de l'histoire de la Formule 1. Donc vraiment, c'était une belle sortie. Et il l'a dit d'ailleurs, hein, on va faire une belle fête avec l'équipe de Mercedes. Et puis on va tourner la page et basculer sur un nouveau et un dernier chapitre, qu'on espère évidemment radieux pour Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc. Mais c'est vrai que c'était une belle sortie, Nico. Et encore une fois, une magnifique course. Et un dernier dépassement sur son coéquipier, alors qu'il a peut-être laissé passer. En tout cas, la manœuvre était belle. Et encore une fois, Lewis Hamilton a dû régaler. Mais oui, il a régalé tout le monde.
J'ai même envie de te dire qu'on s'en fout, en fait. Russell lui a un peu ouvert la porte. Complètement. L'image est belle. On s'en fout un petit peu. Tiens, les gars, exclu paddock, ça vient de tomber. Je crois qu'on a Toto Wolff avec nous qui a un message pour le paddock et pour Lewis Hamilton.
Bonjour à tous, c'est Toto. Je voulais dire bravo à toute l'équipe du paddock RMC pour cette saison formidable. Aucun abandon ni crash, c'est vraiment une grande performance. Concernant le Grand Prix d'Abu Dhabi, je tiens à remercier Georges d'avoir laissé passer Lewis pour la quatrième place. C'était très fair de sa part. C'est un livre qui se ferme avec le départ de Lewis qui nous manquera beaucoup. Je voudrais aussi faire une dédicace à mon ami Jean-Luc Roy, l'un des meilleurs commentateurs de Formule 1 en France. Au revoir les amis et à la saison prochaine.
Il est gentil, Toto. Toto Wolff, carrément, pour Jean-Luc.
Il est vachement sympa, là. Mais attends, je ne crois pas.
Avec tout ce que tu lui mets dans la truffe, quand même, Toto.
Ah, mais pareil, quand on aime bien, on châtie bien. Quand il est bon, je le dis. Quand il est mauvais ou qu'il nous emmerde, je le dis aussi. Tiens, paf, 10 000 dollars. Oh,
on embrasse Arnaud Valadon. qui visiblement, vous savez qu'il est en Hongrie sur une compète de hand. Visiblement, son journée sont pas chargées. Parce qu'il m'a envoyé ça tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il a que ça à faire. Mais très bien. C'est quand même magnifique.
Oh, il nous fait Flavio Toto. Après, allez.
Ah oui. Je lui ai dit, là, tu bosses Flavio pour la saison prochaine. Là, il faut que tu changes un petit peu. Mais il a plusieurs cartouches dans son. Dans
il y a Gunther, poche. Mais plus personne sait qui c'est. Alors,
Gunther. Bah, c'est vrai, Gunther, il y avait l'actu du bouquin. Oh, on l'a vu
tout le week-end. J'imagine que vous avez regardé sur Canal.
Oui.
Il était là pour le coup.
Et franchement, c'est un personnage. Après, son analyse, son expertise, ok, mais.
Ouais, il est peut-être mieux en consultant qu'en team principal.
Ah, ben, c'est ce qu'ils disent chez As, hein, ça, ils sont d'accord. Ça, ils ont tous voté pour.
Le vrai Toto Wolff a bien sûr réagi. Il a dit que Lewis avait piloté hier comme un champion du monde, parti de la 16e place, que c'était la démonstration d'un champion du monde. Donc voilà, tout est bien, qui se finit bien, Louis, j'ai envie de te dire, avec Lewis. Louis, parlons d'Alpine et de Pierre Gasly. On en parlait lors du warm-up avec Arnaud, justement. On disait que si Alpine le faisait, c'était quand même un des plus gros hold-up peut-être de ces dernières saisons en Formule 1, parce que quand on voit le niveau affiché en début de saison à Bahreïn, c'était impossible de prédire ça. Pierre Gasly qui fait encore une super course, une super Q3, qui arrive à grappiller des points, à terminer premier pilote devant le reste du monde, j'ai envie de te dire, hein, derrière les quatre écuries qui dominent. Donc sur cette fin de saison, franchement, Alpine a fait mentir tout le monde et a déjoué un peu tous les pronos.
Ouais, à la manière Red Bull, c'est-à-dire avec une seule voiture. Mais clairement, moi, comme je te l'avais dit la semaine dernière, très très surpris de cette évolution qu'on pourrait presque qualifier de soudaine. Parce que moi, je pensais qu'après la flotte du Brésil, ils allaient retourner à leur place. Et bon, alors, c'est la voiture d'Ocon, que ça soit Esteban ou Jack Doohan dedans, pour le coup, retourner à sa place. En revanche, Pierre, on retrouve, moi, ça me rappelle énormément le Pierre de l'avant-dernière année chez AlphaTauri, je crois, où il fait des sixièmes places quasiment tout le temps en qualif. Alors, derrière, en course, ça tenait pas. Mais c'est-à-dire vraiment que il prouve encore que quand il a le matériel, il maximise à chaque fois, quoi. Et pareil dans sa défense de Russell sur le premier relais, ça lui a peut-être bouffé un peu de pneu ou quoi, mais elle est intelligente, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des manœuvres ou quoi. C'est comme l'a dit d'ailleurs Georges, qui dit il met sa voiture au bon endroit au bon moment à chaque fois. Et voilà, c'est un très grand pilote qui a raté sa chance dans son premier baquet Red Bull, sûrement par jeunesse et dans cette broyeuse qu'est Red Bull, c'est de toute façon compliqué. Et est-ce qu'il aura une seconde chance dans un baquet compétitif? Je ne sais pas, mais il prouve encore une fois qu'il fait partie des grands de ce paddock.
On écoute Pierre Gasly, très content, vous l'imaginez, après cette sixième place d'Alpine au championnat constructeur.
Je suis extrêmement content avec cette fin de saison. Elle représente énormément de travail de la part de l'équipe. C'est vrai que ça a été. On a vécu malheureusement beaucoup de moments compliqués en début de saison, au milieu de saison, avec peu de performances. Mais cependant, on n'a jamais arrêté de se battre et de travailler. Et aujourd'hui, ça a réussi à payer avec cette fin de saison qui est honnêtement très honnête en termes de performance. On arrive à être le meilleur du midfield au Qatar. On est encore le meilleur du midfield devant nous. On a les 3-4 meilleures voitures du plateau. Donc c'était impensable d'imaginer finir à cette position en fin d'année quand on voit où on était à Bahreïn. Et je suis vraiment très satisfait du travail de l'équipe.
C'était impensable d'imaginer finir là, quand même, les mots de Pierre Gasly. Moi, Jean-Luc, j'ai une question. Est-ce que cette fin de saison, ces 3-4 dernières courses là, depuis le Brésil où il s'est passé ce truc magique, et la qualité des pilotes, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? En gros, est-ce que tu sens vraiment, Jean-Luc, qu'il y a une évolution dans le travail chez Alpine, qu'il y a une reconstruction sur laquelle on peut bâtir des fondations pour l'année prochaine, ou est-ce que c'est pas le cas et c'est le talent des pilotes qui fait la diff?
Alors, c'est une question très très compliquée là que tu me poses, Nico, mais je vais tenter d'y répondre. Il y a deux éléments. Le premier, effectivement, l'équipe était malheureusement nulle part pour diverses raisons. On en a beaucoup parlé, malheureusement. Peut-être un manque de direction globale, un manque de tête, on l'a dit. Là, j'imagine que le travail de fond qui est en train d'être réalisé par Oliver Hawkes va porter ses fruits. Maintenant, pas en quelques semaines, pour être clair, ce serait contradictoire. Maintenant, il impose peut-être une méthode de travail. Et puis, je vais insister, il est britannique. Et on parle bien de l'écurie d'Enstone. On est toujours d'accord. Parce que là aussi, j'ai plaisir à souligner que le moteur, moi je vais toujours l'appeler Renault, ça me fait plaisir aussi, a très bien fonctionné ce week-end, vous êtes d'accord, sur le sec. Donc où il tenait effectivement une Mercedes derrière lui. Alors avec son talent et avec tout, mais encore une fois, on va jeter ce moteur aux orties dans une saison, je pense qu'il ne le mérite pas. C'est un autre débat. Donc oui, le travail effectué par l'équipe d'Enstone, qui n'est pas mauvaise du tout, enfin il s'était planté pour diverses raisons, mais là ils sont en train de redresser la barre sur une voiture, encore une fois il faut bien insister, hein, parce que ça a manqué d'un petit hommage à Esteban Ocon, moi je vais le rendre maintenant. Parce que ils ont été ensemble tout le temps. Ok, avec le relationnel qu'ils ont ou qu'ils ont pas, peu importe. Enfin, moi j'oublie tout. Après le Brésil, ils se sont pris dans les bras. Ils sont tous les deux montés sur le podium. C'était génial. Je veux retenir ça. Mais j'aurais aimé dire aussi, Esteban, il a un peu apporté pendant 4 belles saisons, dans les bons comme dans les mauvais moments. Il leur a apporté la seule victoire. Il a fait le boulot. Donc effectivement, elle va revenir, je pense, cette équipe. Et là, je vais faire mon mauvais esprit habituel. Elle va forcément revenir dès qu'elle aura le moteur Mercedes, parce que qui gagne cette année? Un client Mercedes, McLaren, oui, qui a fait du meilleur boulot que l'équipe officielle Mercedes. Donc du coup, Enstone va être au pied du mur en 2026 avec un moteur Mercedes. On verra ce que ça donne par rapport à l'équipe Mercedes et par rapport à l'équipe McLaren. Donc oui, ils peuvent redresser la barre. Et puis là, ça leur a fait un coup de fouet. C'est super de décrocher cette sixième place au championnat d'une manière complètement inattendu. Jusqu'au Brésil, lequel d'entre nous aurait pu penser que c'était envisageable? Enfin, pas moi, en tout cas, je le dis clairement. Là, il y a eu ce résultat sur le mouillé dû au pilote, et puis derrière, une voiture, celle de Pierre, et Pierre est un excellent pilote, à l'évidence, encore une fois, c'est un vainqueur de Grand Prix, il l'exploite magnifiquement. Croisons les doigts pour que ça continue. Moi, je serais évidemment ravi qu'en 2025, on se retrouve à ce niveau-là, c'est-à-dire le premier à part les quatre. Voilà.
Ouais, je suis en train de regarder, il a pris 33 points sur les 4 dernières courses, Pierre Gasly. C'est-à-dire que il a en 20 courses, il en a pris combien? 9. Ouais, vraiment Paul, ils font une fin de saison.
Et c'est sa moyenne des 4 derniers, donc tu vois,
c'est ça. Génial.
C'est ça. Ah, puis je pense que cette course au Brésil, qui sera certainement dans le top 3, messieurs, de ce qu'on a vu de mieux sur cette saison, de les voir tous les deux sur le podium, ça porte encore au pinacle les qualités et d'Ocon et de Gasly qu'on aura du mal à dissocier quand même, même si on sait que ce ne sont pas les meilleurs amis du monde. Hein. Ça a été fou. Et d'ailleurs, c'est ça qui a permis quand même à Alpine de terminer aussi bien classé. Et comme tu le rappelais, Nico, on ne s'attendait pas à les voir aussi bien au vu de la première partie de la saison hein, où ils étaient nulle part, clair. On peut le dire.
Et mine de rien, tu termines qu'à 29 points de la 5e place. Alors, 29 points, c'est beaucoup quand on est une équipe du milieu de tableau, hein, parce qu'on sait qu'ils vont pas, ils font pas des, ils prennent pas des gros points tous les week-ends. Mais, mine de rien, tu termines qu'à 29 points d'Aston Martin.
Mais Alonso a quand même plus de points à lui seul que tout Alpine. Donc,
c'est vrai.
Il y a eu un. Bah, après, c'est vrai que le début de
70
saison,
points, Fernando. Ouais.
Faut se rappeler le début de saison quand même, où genre.
Ils étaient nulle part. Hein.
Ils étaient plus que nuls. Enfin, c'était les deux derniers. On le savait dès le vendredi. Tout le monde était au courant. Enfin, c'est une situation récemment, à part Williams à une époque, Haas à une autre époque. Voilà, c'était ça, quoi. C'est vraiment le pire du pire de ce que peut offrir la F1. Donc, c'est quand même une magnifique remontée. À leur niveau, c'est quand même une belle remontée, un peu comme McLaren a su le faire cette année. Après, on va voir si c'est. Si c'est, je sais pas, moi, c'est juste cette fin de saison pour je ne sais quelle raison, ou si ça va continuer, parce que il reste un an comme ça, donc pourquoi pas.
Non, mais t'imagines que sur cette remontée fantastique, là, c'est une remontée à 30 millions d'euros, Jean-Luc. C'est-à-dire qu'il y a 4 courses.
Ah ouais.
Ils sont 9e, et là, 4 courses après, tu fais 30 millions d'euros en plus. Grâce à
27
grâce
exactement, à puisque tu sais, c'est par tranche de 9. Hein. Ouais.
Oui.
On part de 140 pour les vainqueurs et t'enlèves 9 millions par place et tu termines à 60. Mais bon, c'est déjà 27 millions, ouais, c'est énorme. Bah écoute, alors à l'inverse, bon, ils vont perdre un petit peu de temps de soufflerie, mais je pense qu'ils s'en foutent pour le coup. Je pense que c'est pas grave. Non, écoute, espérons qu'ils vont se maintenir à ce niveau, c'est-à-dire premier du ventre dur, hein, c'est ça l'histoire. Hein. C'est-à-dire potentiellement la cinquième écurie, parce que Aston, là, pour les pauvres, sont nulle part là en cette fin de saison. Mmh. Alors là aussi, je mettrai le bémol que vous connaissez. Hein, c'est dès que notre ami Newey aura fini de planter ses pâquerettes dans son jardin officiellement, on va commencer peut-être à sentir un tout petit peu qu'il est là derrière. Et l'Aston, je pense qu'elle va commencer à progresser un petit peu, et en tout cas Alonso l'espère, dans le courant de la saison 2025, avant évidemment qu'on repose tout à plat pour 2026. C'est ça qui est génial. On va pas arrêter d'en parler de toute façon, de cette remise à plat, en se demandant s'il y a des écuries qui ont un peu laissé tomber 2025 en quelque sorte pour travailler vraiment sur 2026, ou ceux qui vont se dire il y a un trou, il y a justement, faut en profiter puisque tout le monde pense à 2026, il y a quand même deux titres à prendre en 2025, hein.
Ouais. Avec le risque, ouais, avec le risque d'être nulle part pour la prochaine réglementation. C'est tout ce calcul coût-avantage risque qu'il va falloir prendre en compte. Et puis il y aura ceux dont le pari va marcher. Et puis il y aura les baisers, voilà, faut le dire.
Et Ferrari disait d'ailleurs via Fred Vasseur que misait beaucoup sur 2025 quand même, on l'a vu hein, lorsqu'il parlait de ce trou d'air qui a vu Ferrari perdre peut-être 80 points sur le milieu de la saison. Il a dit nous on est déjà prêts et la monoplace on a quasiment tout changé. Donc ce qui veut dire que bien la Scuderia aura les dents longues dès le début de cette saison, même si évidemment, et vous le rappeliez monsieur, tout sera remis à plat pour 2026.
Ah non, mais c'est clair qu'on se fera des projections plus tard, hein, mais là quand tu vois Norris Piastri avec une McLaren, Leclerc Hamilton avec une Ferrari, deux voitures qui tournent super bien, Verstappen sur sa Red Bull qui sera peut-être pas la meilleure voiture du plateau, mais c'est Verstappen, tu te dis que là
ils vont revenir, tu verras.
Ouais. Et en plus, ils vont revenir.
Et Mercedes quand même.
Mercedes. Mais alors Mercedes, moi j'ai mis un peu plus de réserve sur la saison prochaine. On verra, mais tu te dis que t'es quasiment sûr qu'au départ de chaque course, t'as 5 mecs qui peuvent la gagner. Au moins 5 gars qui peuvent la gagner. Donc ça va être vraiment énorme. Un petit mot sur l'ami Sergio Pérez. J'avais mis là dans mon petit conducteur, j'avais mis Sergio, c'est ciao. Parce que bon, là, hein, il abandonne encore, c'est terminé pour lui. Il y avait une réunion chez Red Bull aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on enregistre le podcast le lundi. Red Bull qui ne va pas communiquer suite à cette réunion tout de suite. Visiblement, ce sera fait pour la fin de semaine.
Ils attendent les essais de Tsunoda aussi. Hein.
Ouais, ils attendent les essais de Tsunoda. Mais bon, voilà, c'est terminé pour Sergio. Quand on voit les déclats de Horner, là, qui n'arrête pas de répéter de week-end en week-end que le manque de points de Perez a grandement handicapé l'écurie. Il a quasiment marqué 3 fois moins de points que Max Verstappen, Jean-Luc, Sergio Perez.
Ouais. Non, bah écoute, c'est dramatique, tout le monde le dit, parce qu'encore une fois, c'est pas devenu un mauvais pilote du jour au lendemain. Mais tu vois, quand on parle de la baisse de performance de Red Bull, une nouvelle fois, moi j'aime bien démarrer au Grand Prix d'Imola. Pourquoi ? Parce que c'est moment où Perez a commencé à foirer complètement. Là, il ne prend que 4 points. Après, c'est un désastre. À Monaco, 0. Au Canada, 0. 4 points en Espagne, enfin, ça y est, il n'y est plus. Et donc, ça a vraiment chuté violemment. Alors qu'il est quand même, il prend 18 points aux États-Unis, 21 en Chine. Enfin, le début de saison, les 6 premiers Grands Prix, il est là, quoi. Et ça chute d'un coup. Donc la baisse de performance de Red Bull, elle est là. Alors maintenant, je pense que l'essentiel de la négo qui est en train de se dérouler là, pendant que nous parlons, bah c'est une discussion financière, pour être cru et pour être clair. Parce que quand Horner dit c'est à lui de prendre la décision, bon, on va lui dire bon mon gars, tu mets plus un pied devant l'autre, c'est plus possible de continuer comme ça. Soit Perez va réussir à négocier avec, évidemment, ses gros annonceurs, bah, un baquet dans la RB, pourquoi pas ? Tu vois, un switch avec Lawson, par exemple.
Ouais, ouais.
On peut l'évoquer, c'est presque le plus logique, hein. Comme ça, eh bien, Perez et ses annonceurs, surtout, ne perdent pas complètement la face, ils restent en Formule 1. Alors, on sait bien que, bah oui, le baquet de Perez en RB, ce sera peut-être pas terrible, mais bon. Et puis, on permet à Liam Lawson, qui a manifestement des capacités, est-ce qu'il a celle de briller ou d'exister, même à côté de Verstappen, on le sait pas. Mais bon, c'est la solution la plus simple, parce que débarquer totalement Perez de la F1, là, ça va coûter extrêmement cher, parce qu'ils vont signer un contrat de 2 ans. Ah bah oui, là, c'est une question de fric, hein. Point final. Alors, il leur a coûté cher, parce que comme vous le rappeliez, comme on l'évoquait il y a un instant, bah, ils ont perdu leur titre de champion constructeur, ils sont 3e, donc il leur a coûté environ 25 à 30 millions de dollars. Combien ces annonceurs ont apporté ? Bah, je pense à peu près la même chose, pour être clair. Donc vous voyez, le calcul, il est financier, c'est pas autre chose, hein. Mais bon, c'est dommage que Perez sorte comme ça. Et, là, je pense qu'il a une pression maximale, et je pense que c'est une discussion entre avocats. C'est un peu triste que sa carrière probablement se termine comme ça.
Non, mais c'est clair que du coup, pour revenir sur ce que tu disais sur les chiffres là, à partir d'Imola, sa meilleure perf, c'est Zandvoort, où il prend que 8 points, quoi. Sinon c'est cataclysmique.
Nombre de 100 pouvoir faire,
ouais, messieurs.
Je sais pas ce qui serait le plus gênant entre partir ou se faire rétrograder dans la RB, en vrai.
Franchement, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'allais dire, est-ce que vous le voyez vraiment déjà, moi je trouve que pour le projet Red Bull, ça n'aurait pas trop de sens. Alors si, t'as raison, Jean-Luc, financièrement,
et contractuellement, parce que un baquet pour 2 saisons signé par Red Bull, tu vois. Donc peut-être qu'on va s'en sortir en perdant, en faisant moite-moite. C'est pas très brillant, mais en disant bon, c'est-à-dire que au lieu de perdre 25 ou 30 millions, on va en perdre 12. Va savoir. Je te dis, c'est une discussion financière.
Mais c'est vrai que le désaveu serait assez terrible pour Perez, qui est quand même pas n'importe qui en Formule 1, qui a une carrière. Louis, enfin, tu l'imagines, toi, coéquipier de...
Non, alors pour deux raisons. Déjà, je pense comme ça, ouais, concrètement, même c'est un peu compliqué. Bon, on a vu Ricardo quand même ces derniers temps, mais il avait fait une pause avant de revenir dans une écurie de seconde zone. Et puis tout simplement parce que je ne veux pas de ce scénario, parce que sinon le siège a l'air quand même promis à Isaac Hadjar, et que c'est ça que je veux, moi.
Ah bah tiens, bah on va faire notre petit point Formule 2 avant de terminer le podcast sur les meilleurs moments de votre saison là. Isaac Hadjar, on en attendait beaucoup, il a roulé sur la première séance d'essai. Bon, d'ailleurs il a eu des petits soucis de moulage de baquet. Je crois que c'était ça, il y avait un problème avec son baquet sur cette première séance d'essai. Et derrière, il a enchaîné avec les qualifications de la F2. Ça n'a pas été le meilleur week-end en qualif d'Isaac. Et surtout en course, Jean-Luc, il cale Hadjar. Ouais. Et il y a ce son, mais à la radio, mais qui est terrible, où tu le vois seul sur la grille, alors que Bortoleto, son principal adversaire au championnat, bah, s'envole un petit peu. Il dit, les gars, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ? Je crois que c'est le pire moment de ma vie. Et c'est déchirant, tu le vois seul sur la grille, Jean-Luc. Là, t'imagines les semaines de travail accumulées pour cet incident au départ, quoi.
Ben c'est affreux, c'est le pire scénario. Puis on le dit à chaque fois, hein, c'est le moment où personne ne peut plus rien. Ben comme nous en direct, tiens, à la radio, je fais exprès. Personne ne peut plus rien pour nous. Il faut se débrouiller en fonction de ce qui se passe. Ben là, le pilote, tout le travail de l'équipe, les centaines de personnes, enfin un petit peu moins F2, mais les dizaines de personnes qui sont là, là il est tout seul. Et là, ben oui. Il craque. Bon, après, en général, l'écurie le joue bien en disant « Oh, il y a eu un petit problème technique ». Mais bon, effectivement, il explose. La pression est énorme. Alors, ça arrive à tout le monde. Les meilleurs ont tous, au moins une fois, commis une grosse erreur. Est-ce que là aussi, on l'avait évoqué, est-ce que c'est souhaitable parce que finalement, le fait qu'il n'ait pas le titre de F2 avec la malédiction du champion F2, vous me voyez venir à nouveau, hein, ouais. La Pourchaire Drugovic Terrible Connection. Non, mais là, c'est vrai que on se dit, bah du coup, il pourra au moins refaire une saison de F2. J'espère pas, moi aussi, j'espère qu'il va avoir le baquet de RB, mais bon, on va voir. Je pense que cette séance d'essai, là, va être extrêmement importante parce que effectivement là il a sa chance hein, de monter dans un baquet aux côtés de surcroît de Yuki Tsunoda. Bah, peut-être c'est un des deux effectivement qui se retrouvera la saison prochaine dans le baquet de la Red Bull aux côtés de Verstappen. L'enjeu il est colossal. Là il faut pas qu'il craque, hein. Là il faut qu'il fasse un super boulot parce que c'est vrai que là, moi aussi j'ai attentivement regardé sur le high timing, les écarts, les Il a été, oui, il a pas été à son meilleur non plus pour la FP1. Il faut être clair, il a été pas ouais. mal. Il a été devancé de mémoire par Perez de environ 5 dixièmes, ce qui est pas forcément la bonne référence si vous voyez ce que je veux dire.
Après, je crois qu'il a pas eu trop de run, il a pas eu trop son run où il pouvait un peu lâcher les chevaux et tout ça.
Ça faisait beaucoup pour un week-end, c'est-à-dire déjà un week-end F1 ouais. F2 simple. C'est compliqué, ouais. Mais un week-end F1, F2 où tu joues le titre et un baquet, waouh,
ouais, c'est énorme.
Moi, je comprends qu'on puisse caler, hein, mais
ah ben bah oui, mais on le comprend.
Donc c'est vrai, mais c'est vrai que devant ta télé tout le week-end, tu passes ton temps. Moi, j'avais mis des petites alarmes pour avoir la. Normalement, je regarde pas trop la F2, mais là, je voulais. Et à chaque fois, ça tournait court en mode ah mince, bah là c'est foutu et tout. Donc ça, espérons qu'il ait ce baquet et qu'il nous montre tout ce qu'il sait faire en F1.
Est-ce que Paul, tu penses que ce qui s'est passé pour lui là, ça peut influencer la décision de Red Bull sur son baquet en Formule 1? Est-ce que Abu Dhabi, ça peut vraiment être une valeur importante pour Red Bull, ou alors t'as quand même tout le travail sur la saison? Je regardais la saison d'Isaac Hadjar, quand même à chaque fois qu'il a eu en course aucun problème technique ou aucun problème de fiabilité, il a terminé sur le podium quand même. Le gars fait preuve d'une vraie régularité. Donc est-ce que tu penses que ça peut l'impacter ou pas?
Ah, du tout. Alors je ne suis pas dans les têtes pensantes de chez Red Bull, mais quand même, Louis le rappelait, pression maximale quand même ce week-end avec de la Formule 1, le titre en F2. On peut comprendre que le bonhomme, qui est encore un très très jeune pilote, est un petit peu de pression. Alors on sait que c'est un monde impitoyable, la Formule 1. Mais enfin, si il était cuté, passez-moi l'expression, pour ne pas aller en F1 à cause de ce dernier week-end, je pense que ce serait vraiment trop trop dur. Et je pense quand même que il y aura quand même un petit peu de bon sentiment, j'ai envie de dire, pour voir le Français eh bien, grimper d'un étage et disputer le championnat de Formule 1 la saison prochaine. Enfin, ça n'est que mon avis, mais je pense que ce serait vraiment dur de voir Hadjar repartir sur une saison de Formule 2 la saison prochaine.
Ouais, bah on va voir ça. En tout cas, c'est vrai que ça va être un des gros enjeux aussi de ces essais post-saison là qui se déroulent à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. On va terminer ce podcast, les amis. Je vais vous demander votre grand moment de la saison. Je pense que vous allez être beaucoup à me répondre. Le doublé Alpine au Brésil, bien évidemment. Donc, c'est Jean-Luc qui va avoir le luxe de commencer, et derrière faut vous adapter. Vous me sortez pas le même grand moment, hein. À chaque fois vous essayez de vous souvenir d'un moment marquant de la saison. On se retrouve pas avec trois doublés Alpine, parce que bien évidemment que le doublé d'Alpine ça a été un des moments extraordinaires de cette saison. Vas-y Jean-Luc, qu'est-ce que tu retiens?
Bon, alors t'es sympa mon Nico de me laisser la priorité. je vais peut-être pas être comme mes petits camarades, parce que moi je vais t'en citer deux que je peux pas isoler. C'est la victoire de Charles à Monaco, dans les rues de Monaco, avec une Ferrari. Pour moi c'est absolument fantastique, et je sais que pour lui aussi. Et puis sa victoire à Monza avec une Ferrari. Je peux te dire que ça, ces deux moments-là, il va s'en rappeler toute sa vie, mais toute sa vie, et puis beaucoup de gens s'en rappelleront, et moi aussi. Donc voilà, pour moi, c'est les deux temps forts. Alors, juste un mot sur Alpine, mais je comprends très bien que mes joyeux camarades puissent le retenir. Bah, ils n'ont pas gagné, malgré tout. C'est superbe, c'est magnifique, ils sont sur le podium tous les deux, mais ils n'ont pas gagné. C'est pas pareil.
C'est vrai. C'est vrai que Charles, quand même, il gagne trois courses cette saison. Il prend Monaco, il prend Monza, et après, bon, il y a la petite sucrerie aux États-Unis à Austin, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas choisi les pires courses pour s'imposer. Paul, ton moment de la saison.
Bah, j'en ai même trois, alors je vais être assez rapide. Vas-y. La première pour moi, c'est la victoire de Lewis Hamilton à Silverstone, parce que ça faisait quand même presque 3 ans qu'il n'avait plus gagné, hein, depuis ce titre perdu face à Verstappen en 2021, et on voyait justement Verstappen revenir, et Lewis Hamilton a tenu pour s'imposer chez lui en Angleterre, donc pour moi c'est le plus beau des moments. Le deuxième, c'est le même que Jean-Luc, c'est à Monza, c'est Charles Leclerc qui fait le pari d'un seul arrêt, et qui voit Piastri revenir dans ses rétroviseurs, et maintenir cette pression pour aller s'imposer, lui qui s'était déjà d'ailleurs imposé en 2019 à Monza. Puis la troisième, parce que pour l'image du champion qui est Verstappen aujourd'hui, c'est cette course au Brésil complètement dingue, sous la pluie. Alors on parlait des deuxième et troisième places d'Alpine, mais quelle science, quelle maîtrise du pilotage sous la pluie pour Max Verstappen. Donc voilà, Lewis Hamilton en Angleterre, Charles Leclerc à Monza, et puis Max Verstappen au Brésil, c'est mon trio pour cette saison extraordinaire de 2024.
T'as vu, cette fraternité, ils m'ont laissé, le boulevard pour que je dise.
Mais c'est ça, le paddock, c'est une grande famille. Ouais. Allez, vas-y, mon Louis.
Eh ben, le doublé d'Alpine, les gars, il y avait que ça dans merde. Non, mais évidemment, c'était l'apogée pour deux raisons. Déjà, parce que c'est incroyable, mais je crois qu'aussi, quand tu t'y attends tellement pas, que t'es au fond du trou toute l'année, c'est incroyable, c'était magnifique. Les deux étaient là pour l'histoire de leur. Enfin, tu vois, tout était parfait en fait. Tu vois, parfois comme ça, il y a des choses. Tout était parfait. Et comme vous en avez tous choisi deux, bah moi aussi j'en choisis deux. Et Grand Prix de Bahreïn, la 19e place de Valtteri Bottas.
Ok, très bien. Bah moi je vais vous donner deux.
Nico il enchaîne en mode bah oui c'est tout à fait normal.
Non mais c'est pas mal. Non mais en fait j'étais en train de me dire quand même qu'on a parlé des grands moments de la saison sans évoquer une fois Max Verstappen. Alors moi je vais vous dire quand même.
Si je peux dire, j'ai notre réalisateur dans les oreilles qui insiste Toto pour parler de Verstappen et de ses fameux dépassements. Donc voilà.
Alors voilà. Non mais moi c'est ce que je voulais dire. Je voulais quand même qu'on parle de Verstappen. Et quand on parle de la deuxième et de la troisième place des pilotes alpines au Brésil, on est obligé de se rappeler de ce Grand Prix extraordinaire de Max Verstappen, qui fait une course totalement dingue, une course de mutant, probablement une des plus belles courses de sa carrière. Enfin, en tout cas, ça faisait. Réécoutez-vous le podcast, le paddock d'après Brésil, où on avait vraiment des étoiles dans les yeux après cette performance de Verstappen. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un grand moment. Et puis, moi, je trouve que ce qui a fait que cette saison a été quand même magnifique, c'est que tu as quand même 7 vainqueurs différents de Grand Prix. Et que voilà, chaque week-end, il s'est passé des choses. Et ça fait du bien en Formule 1, surtout après ce qu'on avait vécu l'année dernière et l'hégémonie de Verstappen. On a vraiment, je pense, repris tous du plaisir à se dire, à regarder des fois les classements quand on ratait les qualifs, à se dire non, mais c'est pas ça, non, mais c'est pas possible. Bon, au bout d'un moment, on a vu que Sergio Pérez serait toujours éliminé en Q1. Mais bon, il y avait toujours un petit phénomène qui faisait que les week-ends étaient différents les uns des autres. Et c'est ce qui a fait que cette saison était vraiment sympa.
Donc, si tu me permets, Nico, sur Max, parce que tu as parfaitement raison. La course du Brésil est vraiment extraordinaire et démontre tout son talent sur le mouillé avec, je répète, la 4e voiture du plateau. Hein. Et tu le rappelais, c'est arrivé rarement, et ça n'est pas arrivé depuis très longtemps, que le champion du monde ne pilote pas la meilleure voiture du plateau. Et là, c'est pas la 2e, c'est pas la 3e, c'est vraiment la 4e monoplace du plateau. Donc c'est remarquable. À part, on l'a souligné tout à l'heure, les 5 premiers Grands Prix, mais c'est remarquable. Donc c'est sûrement sa saison la plus achevée, la plus accomplie.
Les amis, merci beaucoup pour ce débrief de ce dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Je vous rappelle que le paddock RMC n'est pas en vacances dès la semaine prochaine. On va se faire un débrief poussé de la saison de McLaren. Je pense qu'on va englober Ferrari également. On va se projeter un peu sur la saison prochaine. On va revenir également sur tout ce qui se passe actuellement là, du côté d'Abu Dhabi, parce qu'il y a des essais en cours et il y aura forcément des annonces en fin de semaine. Donc peut-être qu'on saura si Zak Hadjar est le 3e pilote français en Formule 1, 4e francophone avec Charles Leclerc, bien évidemment. Les gars, merci beaucoup. N'oubliez pas une petite note sur les réseaux et on se dit à très vite, à la semaine prochaine. On s'est régalé toute cette saison et c'est pas terminé. On va encore parler F1 dans le paddock RMC, vous inquiétez pas. Jusqu'à la reprise de la saison 2025, c'est dans 87 jours. Oh moi, j'ai déjà mis le petit. Eh ouais, je suis déjà en train de coucher les jours. C'est comme ça. Allez, salut les amis.
Salut à tous.
Salut à tous. Bye bye.
Le paddock RMC.